Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, c'est avec vous Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Peggy, bonsoir à tous. Bienvenue, c'est parti pour 2 heures d'infos avec vous. Et à la une, le Royaume des Unis. La reine d'Angleterre prive Harry et Meghan de photos de famille. Le couple n'apparaîtra pas au balcon de Buckingham lors du coup d'envoi du jubilé d'Elisabeth II dans un mois. Sa Majesté écarte aussi Andrew, son rejeton préféré, accusé dans une sordide affaire de viol. Thomas Pernet, journaliste à Point de Vue, spécialiste des Couronne sera avec nous dans un instant dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. C'est interdit en France et pourtant un vétérinaire soupçonné d'avoir fourni de l'aide à quelqu'un qui s'est suicidé a été relaxé. On va tenter de comprendre cette décision du tribunal d'Angers qui, pour l'heure, n'est pas définitive. Dans ce journal aussi, les crispations à gauche après l'Union pour les législatives, le Rassemblement national en mode vacances et puis un témoignage très fort, celui du patron des sauveteurs spéléologues de l'Isère après la mort d'une guide hier près de Grenoble. Elle encadrait une sortie scolaire, elle a sauvé une jeune fille. Elle a, dit-il, été au bout de sa mission. Les courses en nocturne à Vincennes dans le Quintet Plus. Dominique Cordier vous recommande de jouer le 11, le 6, le 10, le 13, le 3, le 2, hélas.
Autre témoignage exceptionnel, celui de notre invitée de 18h15. Elle s'appelle Anna, elle a vécu 2 mois avec son bébé dans les souterrains de l'usine Azovstal, la dernière poche de résistance ukrainienne à Mariupol, la ville martyre, et elle va nous raconter. Dans un quart d'heure, la brigade RTL va s'interroger, est-ce que les mots de passe vont disparaître sur Internet? 18h40, on va refaire nos régions avec vous Marion et nos correspondants, 20 minutes positives près de chez vous.
On ira à Dijon, capitale de la gastronomie, on retrouvera des picards qui se battent pour leur tranquillité et puis on fera un bon aligot réjouissant du côté de Clermont.
À 19h15, ils refont la France, Agnès Bonfillon et ses complices de la presse étrangère. Bonsoir Agnès.
Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. On a beaucoup entendu cette semaine que la gauche française vivait un moment historique. Eh bien, on leur demandera à nos correspondants ce qu'ils en pensent.
La tendance météo également tout au long de l'émission avec Valérie Quintin. Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
Pour demain, ça dit quoi?
C'est pas fameux demain. Il va y avoir pas mal de nuages, quelques éclaircies près de l'Atlantique, des orages dans le nord et dans l'est. Dimanche, un petit peu mieux, mais on va tout miser, mais vraiment tout, hein, sur la semaine prochaine.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et donc la nouvelle mise au ban du prince Harry et de sa femme Meghan. Le couple n'a pas été convié sur le balcon de Buckingham pour l'une des cérémonies phares du jubilé.
Pour la parade du salut aux couleurs qui doit donner le coup d'envoi des festivités des 70 ans de règne d'Elisabeth II, ce sera le 2 juin prochain. Bonsoir Thomas Pernet.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au magazine Point de Vue, spécialiste des têtes couronnées. Cette décision concerne aussi le fils de la reine, hein, Andrew, mis en cause dans l'affaire Epstein, affaire de trafic sexuel. Alors est-ce que cette absence de ces trois personnalités royales du balcon de Buckingham, c'est une surprise ?
Une surprise, oui et non. On imaginait mal le prince Andrew être au balcon de Buckingham pour ce grand jour de fête. Alors certes, il a réussi une forme de retour en étant auprès de sa mère à Westminster au moment de la messe pour la mémoire du prince Philippe. Néanmoins, en utilisant cette petite solution, ce truc, à savoir que seuls les membres de la famille royale actifs, ceux qui ont des engagements officiels, soient aux côtés de la reine le jour J, Buckingham en fait se retire une épine du pied, il évite d'avoir Andrew sur la photo de famille. Et puis Meghan et Harry, c'est vrai que c'était un peu compliqué aussi. Comme ils ont quitté la famille royale, comme ils ont décidé de ne plus être membres actifs, ils ne seront pas non plus au balcon. C'est dommage car ça reste des célébrités, mais au moins, là aussi, peut-être que les tensions s'apaisent. Il faut savoir que Meghan et Harry, leur départ de Londres et de la famille royale a provoqué bien des brouilles au sein de cette famille, et notamment vis-à-vis de William. Les deux frères sont toujours brouillés.
Mais que Andrew et le couple Harry-Meghan soient mis dans le même sac, ça paraît assez étonnant, non ?
C'est vrai que c'est pas vraiment flatteur pour Harry et Meghan. C'était déjà le cas pour les obsèques du prince Philippe. Rappelez-vous, il y avait eu toute cette affaire. Est-ce que les hommes de la famille royale seront en uniforme ou pas? Et on se disait, c'est pas possible. Le prince Harry peut pas être en uniforme. Il est plus un membre actif. Et le prince Andrew, on le voit mal en uniforme alors qu'il est dans ce scandale de l'affaire Epstein. Donc il avait été décidé que tous les hommes seraient en civil, en costume black tie, costume noir, cravate, classique. Et finalement, c'était déjà la même chose. Harry avait pâtit de la réputation de son oncle et des affaires de son oncle Andrew. Et néanmoins, là aussi, ça va arranger la famille royale.
Thomas, une question sur la reine. On apprenait hier qu'elle renonçait au garden party à Buckingham. Là encore, est-ce qu'on sait aujourd'hui comment elle va ?
C'est compliqué. On a comme ça des petites pastilles, vidéos, photos où on voit qu'elle a toujours des engagements officiels, toujours à l'intérieur, à Windsor. Voilà, on pense qu'elle va bien, autant que peut aller bien une dame de 96 ans. Malgré tout, vous avez raison, l'épée de Damoclès sur ces festivités, c'est de savoir si elle sera à toutes les festivités, quelle sera sa présence. En fait, Buckingham communique très peu sur la santé de la reine et notamment sur sa mobilité. Donc par exemple, pour la messe qui aura lieu à Saint-Paul, elle n'entrera pas, si elle est présente, par l'entrée principale de la cathédrale, parce qu'on l'imagine mal monter les grands escaliers qui mènent jusqu'à cette cathédrale. Donc jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, on ne saura pas si la reine sera à tous les événements, et si elle n'est pas, qui la représentera.
Merci Thomas Pernette, journaliste au magazine Point de Vue, de nous avoir expliqué les implications dans RTL Soir de cette mise au ban.
Et je vous rappelle, chers auditeurs, le podcast que vous propose RTL et Point de Vue justement sur la reine à l'occasion de ce jubilé, tout ce que l'on ne vous a jamais dit sur Elisabeth II, un épisode par semaine, le troisième, il est déjà écoutable sur la reine et la mode, tout un programme.
Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
Et à 18h06 maintenant, on en vient à cette décision qui interpelle et qui pose de nombreuses questions. Lundi, le tribunal d'Angers a relaxé un homme soupçonné d'avoir aidé un de ses amis à se suicider.
Ce vétérinaire était poursuivi pour faux et usage de faux après avoir rédigé de fausses ordonnances pour que cet ami atteint de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative incurable, puisse se procurer de puissants produits anesthésiants normalement destinés aux animaux.
Bonsoir Odile Pouget.
Bonsoir.
Alors ce qui interpelle, c'est qu'en France aujourd'hui, la loi interdit de fournir une aide à quelqu'un qui veut se donner la mort. Pourtant, ce vétérinaire a été relaxé. Au nom de quoi ?
Eh bien, au nom de l'état de nécessité. Cet article du Code pénal précise qu'une personne peut ne pas être responsable pénalement d'un délit ou d'un crime lorsque celui-ci est commis pour épargner quelqu'un d'un danger ou pour sauvegarder sa personne. C'est ce qu'a démontré le défenseur du vétérinaire, Maître Antoine Barret. C'est une première dans ce type de dossier. Selon lui, ce danger existait réellement pour l'ami de son client. Son état allait se dégrader inexorablement.
Cette personne avait exprimé et réitéré son choix d'en terminer à un moment choisi, par des moyens choisis, à savoir une mort douce, de manière à échapper à la fin de vie qui l'attendait dans l'autre cas, c'est-à-dire paralysie progressive, avec des souffrances indicibles jusqu'au décès.
Dans leur décision, les magistrats ont donc estimé qu'il y avait bien état de nécessité, qu'il ne s'agissait pas évidemment de sauvegarder la personne, mais d'éviter qu'elle souffre.
Et est-ce que cette décision, Odile, peut faire bouger les lignes sur la fin de vie ?
Alors il faut dire que d'abord le parquet a fait appel pour que cela fasse jurisprudence, et il faudrait que ce jugement soit définitif, mais c'est vrai que cette décision de justice tombe à un moment particulier où l'on attend une convention citoyenne sur la fin de vie. La loi actuelle autorisant simplement une sédation profonde et continue et seulement pour les personnes en fin de vie provoque beaucoup d'insatisfaction, on le sait. Il y a un an, une proposition de loi créant un droit à l'euthanasie avait été examinée à l'Assemblée. Elle n'a jamais abouti en raison du nombre d'amendements déposés.
Les explications d'Odile Pouget, spécialiste santé de RTL.
Ils se mettent en ordre de marche près de 2 semaines après le second tour de l'élection présidentielle. Le week-end politique s'annonce chargé.
Pour le moins, investiture d'Emmanuel Macron demain matin, édition spéciale d'ailleurs à suivre dès 11h sur RTL. Les Républicains, eux, lanceront officiellement demain leur campagne pour les législatives alors que la gauche affichera son unité à Paris pour sa convention d'investiture. Unité qui continue quand même de faire débat chez les socialistes.
Avec des circonscriptions qui cristallisent les tensions. Par exemple, celle de Tulle en Corrèze, qui fut celle d'un certain François Hollande. Et bien 10 ans après son entrée à l'Élysée, une candidate insoumise a été investie dans sa ville, assez peu délicat pour le maire, proche de l'ex-chef d'État Bernard Combes.
C'est un mauvais coup de tous ceux qui l'a servi, de tous ceux qui étaient bien contents il y a 10 ans, le 6 mai 2012, d'être de la partie.
Olivier Faure notamment et d'autres.
Oui, Olivier Faure le premier, mais Voilà, mais écoutez, c'est bien. En tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que la France insoumise, dans toute sa rectitude et sa verticalité, puisque bon, je croyais qu'il n'y avait que Emmanuel Macron pour être vertical, mais j'observe que beaucoup d'autres peuvent l'être aussi. Et j'observe aussi qu'avec 326 circonscriptions possibles et 70 OPS, on n'a pas réussi à en trouver une à faire conserver à la Corrèze. La Corrèze qui est une terre radicale et radicale socialiste. Et je trouve que le prix est très élevé.
Le maire de Tulle avec Benjamin Sportouche pour RTL. Il citait Olivier Faure. On attend la réponse du patron du PS puisqu'il sera l'invité du grand jury dimanche à midi sur RTL.
En revanche, du côté du Rassemblement National, là c'est le calme plat. L'heure est encore au repos et certains, Marie Mollet, commencent à s'impatienter.
Oui, depuis le second tour, on ne peut pas dire que le QG du RN bouillonne. Une partie des cadres ont déserté les couloirs, aucune réunion stratégique sur les législatives ne s'est tenue ces derniers jours et Marine Le Pen n'y a mis les pieds que quelques fois pour les investitures. Elle se repose, nous dit-on, veuillez patienter encore quelques jours pour l'apercevoir sur le terrain ou l'entendre sur un média. Bref, ambiance vacances estivales au Rassemblement National, et tant pis si la gauche lui a totalement volé la vedette ces dernières semaines. Dans l'entourage de l'ex-candidate, on justifie. Le débat d'entre-deux-tours, c'était l'Everest. Après l'Everest, on récupère. Et puis, il faut attendre la composition du gouvernement pour affiner la stratégie. Et puis, l'union de la gauche, ça peut être mobilisateur pour notre électorat. Tout de même, un cadre commence à s'impatienter. Tant que la chef n'est pas rentrée, le parti tourne au ralenti. La vérité, dit-il, c'est que même Jordan Bardella a besoin de Marine.
Merci Marie Mollet.
Une pause et dans un instant, le témoignage d'un proche de la spéléologue morte hier lors d'une sortie près de Grenoble. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier.
RTL Soir.
Et la suite de votre journal à 18h12 dans RTL Soir avec ce témoignage RTL. Témoignage empreint d'émotion du patron des sauveteurs spéléologues de l'Isère après la mort d'une guide hier près de Grenoble.
Cette spéléologue expérimentée, Sabine, 55 ans, maman de 3 enfants, encadrait une sortie de collégiens lorsque l'eau est brusquement montée, surprenant une enfant qu'elle a secourue. Un geste qui lui a coûté la vie et que salue ce soir Thierry Laribe.
Pour moi, son geste, c'est-à-dire sortir la gamine de l'eau, lui maintenir la tête hors de l'eau, jusqu'à y laisser sa vie, c'est une fille qui allait jusqu'au bout de sa mission, c'est-à-dire qu'elle avait la responsabilité du groupe et de sa sécurité. Et sa mission, c'était d'assurer cette sécurité-là. Et là, je vois très bien Sabine. Elle est allée jusqu'au bout de la mission, à rassurer la gamine, à la remettre à son collègue et à partir dans les flots après. C'est terrible ce que je viens d'évoquer là. Pour moi, c'est difficilement supportable, mais elle est allée jusque-là. C'est pas la première fois qu'on perd quelqu'un, mais cette fois-là, c'est compliqué.
Le patron des sauveteurs spéléologues de l'Isère, joint pour RTL par Serge Puyot. C'est un feuilleton qui dure et qui n'en finit plus. Hier soir, nos confrères du Parisien l'assuraient, Kylian Mbappé est bien parti pour rester au PSG.
Bonsoir Nicolas Georgerot.
Bonsoir.
Mais dans le même temps, du côté du Real Madrid, on s'en veut confiant. Et nous, Nicolas, on a un peu l'impression d'être dans le brouillard.
Bah oui, les jours passent, les rumeurs s'enchaînent, tout comme les démentis du clan Mbappé, notamment de la part de sa mère, Faïza Lamari, quand le journal Le Parisien aujourd'hui en France, oui, affirme qu'un accord de principe a été trouvé pour une prolongation à Paris. Elle rétorque sur les réseaux sociaux qu'il n'en est rien. Quand le journal espagnol Marca affirme plus tard que l'option numéro 1 est le Real Madrid, elle préfère que soit employée la phrase « Kylian Mbappé est plutôt sur un départ ». Donc le suspense continue. À ce jour, aucune décision prise par le joueur et son entourage. Les discussions se poursuivent. En attendant, il a déjà eu gain de cause sur un point. Il souhaitait, comme d'autres joueurs du PSG, être présent au trophée UNFP dans 10 jours, où les récompenses de la saison sont distribuées. Le club parisien a programmé une mini-tournée de promotion au Qatar. À ce moment-là, Mbappé, Donnarumma, Nuno Mendes, Marquinhos notamment, s'envoleront après la cérémonie pour rejoindre leur partenaire dans le petit émirat.
Nicolas Georgerot.
Et ce soir, le foot, c'est le début de la 36e journée de Ligue 1. Lille-Monaco, 21h à suivre dans RTL Foot dès 20h.
Évidemment. Merci Marion. Le temps pour demain, pour ce week-end, Valérie.
Alors demain, on va avoir un ciel un peu plus nuageux. Quelques ondées orageuses au nord de la Seine ainsi que sur le flanc est, depuis le sud de l'Alsace jusqu'à la Corse. Pour les autres régions, pas mal de nuages. Quelques éclaircies un peu plus vaillantes quand même près de l'océan Atlantique et des températures stables. 5 à 16 degrés au réveil des Vosges-Roussillon, 14 à 27 l'après-midi. Après-midi entre Dunkerque et Montpellier, 20 degrés pour Paris, 23 à Toulouse et Grenoble, 24 à Lyon, 26 à Avignon. Dimanche sera un petit peu plus lumineux.
Merci Valérie.
La brigade RTL Soir.
Et ce soir, la brigade RTL s'interroge. Le mot de passe est-il voué à disparaître? Vous en avez sans doute des dizaines pour chaque site internet. Vous ne vous en rappelez jamais ou alors vous utilisez tout le temps le même et ça, ce n'est pas une bonne idée. Du coup, Google, Microsoft et Apple se sont mis d'accord pour trouver une nouvelle technologie. Pour s'identifier, on va poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Sophie Jousselin.
Bonsoir.
Comment on va se connecter sur un site sans mot de passe? Quelle est l'idée de ces géants du web?
Alors Julien, on va prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, si vous voulez vous acheter par exemple une paire de chaussures sur Internet, vous devez aller sur le site, vous devez vous identifier avec un identifiant et votre mot de passe. Et bien quand cette technologie qui s'appelle pour l'instant Fido sera disponible, vous irez sur le même site et vous pourrez choisir identification sans mot de passe. À ce moment-là, vous devrez juste déverrouiller votre smartphone, comme vous le faites des dizaines de fois par jour, via votre empreinte, hein, via la reconnaissance faciale ou via un code à 4 ou 6 chiffres. Et une fois que ce sera fait, par magie, vous serez connecté au site internet et vous pourrez effectuer votre achat. C'est un échange de clés numériques qui permettra ce petit miracle et vous aurez juste à vous inscrire à ce service une fois pour toutes pour en profiter.
Mais c'est vraiment plus sûr ?
Oui, puisque c'est votre téléphone qui vous donnera accès au site marchand. En général, votre smartphone, vous l'avez sur vous, votre empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, ça n'appartient en général aussi qu'à vous, c'est difficile à pirater. Donc il y a beaucoup, beaucoup moins de risques que de voir votre mot de passe volé ou piraté.
Je pinaille un peu, mais si on n'a pas de téléphone ou si on se fait voler son téléphone.
Voilà, si vous n'avez pas de téléphone, c'est vrai que là, on touche effectivement aux limites de la technologie.
Voilà.
Là, vous continuerez à vous identifier comme aujourd'hui avec un mot de passe. Bah, en cas de vol de votre smartphone, écoutez, il n'y a pas de risque, puisque de toute façon, les pirates en général effacent le contenu du smartphone, donc tout disparaîtra. Bah, vous achèterez un nouveau téléphone et pour pouvoir continuer à utiliser cette technologie sans mot de passe.
Les explications de la brigade RTL. Merci beaucoup Sophie Jousselin. Courte pause et ensuite un témoignage très fort sur RTL. Celui de Anna. Elle est en ce moment dans un bus qui l'emmène loin de Mariupol. Elle vient de vivre 2 mois dans l'usine Azovstal, ce labyrinthe souterrain, la dernière poche de résistance ukrainienne. 2 mois sans lumière avec son bébé. Elle fait partie des rares évacués et elle nous raconte tout juste après ça.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Bonne fin de journée, vous écoutez RTL et ce soir un témoignage exceptionnel. Notre invité va nous raconter l'enfer de Mariupol et l'enfer de cette usine Azovstal, ultime poche de résistance ukrainienne dans cette ville martyre. Azovstal, c'est un gigantesque site industriel, une ville souterraine en quelque sorte où des combattants et des civils sont retranchés depuis de longues semaines. Bonsoir Anna.
Bonsoir tout le monde.
Alors vous faites partie de ces habitants qui ont pu être évacués de l'usine. Vous êtes en sécurité maintenant avec votre bébé. Ailleurs en Ukraine, vous êtes en train d'ailleurs de vous déplacer dans un bus avec d'autres réfugiés. Racontez-nous Anna, comment s'est passée l'évacuation? Comment vous avez réussi à quitter cet enfer?
Notre évacuation s'est durée pendant 3 jours. Premièrement, on était évacués par les soldats d'Azov. On avait le bus qui était totalement cassé. Comme ça, on a fait le chemin dans Azovstal. Et après, quand on était à Mariupol, on a changé le bus. Et là-bas, on a été avec les gens de Croix-Rouge, United Nations. C'était le process très, très difficile. Et je peux dire que nous sommes vivants, c'est le miracle. Vraiment le miracle.
Dans l'usine, comme il y a très peu d'évacuations, comment vous avez décidé qui allait partir et qui allait rester?
Premièrement, on a fait des listes avec les enfants, avec les gens âgés et avec les gens blessés et aussi les femmes.
Est-ce que vous pouvez nous raconter à quoi ressemble ce site Azovstal? Parce qu'on en parle beaucoup, mais nous en France, on ne sait pas vraiment à quoi il ressemble. C'est un labyrinthe géant, il y a des souterrains, c'est comme une petite ville sous la terre?
Oui, bien sûr, c'est comme une petite ville parce que, comme vous avez déjà compris, c'est très, très grand. C'est comme la ville dans la ville. Il y a beaucoup de labyrinthes souterrains.
Vous avez vécu 2 mois dans cette usine, Anna, donc en sous-sol, vous n'avez quasiment jamais vu la lumière du jour.
Je n'avais pas de lumière du jour, alors ça fait 2 mois que je n'ai pas vu le soleil et le ciel. Quand j'étais évacuée, la première chose que j'ai dit, c'est que je peux sentir l'air sur sur ma peau. Là-bas, on avait le générateur et grâce à ce générateur, on avait la lumière, mais et on avait le régime de lumière. Alors, c'est comme à 9h jusqu'à 9h du soir.
Anna, vous dormiez où? Vous dormiez dans des abris à même le sol?
Parfois au sol, parfois sur le lit, parce qu'il y a les lits là-bas, mais tous les lits, ils sont faits de bois. Il n'y a pas de matelas là-bas, c'est juste le bois.
Et est-ce que vous aviez assez à manger, assez à boire?
Alors, on n'avait pas beaucoup pour manger et beaucoup d'eau, mais grâce à nos militaires, on a surmonté ces situations. Ce sont des choses qui ne sont pas calculées pour 2 mois.
Je crois que vous avez perdu du poids, vous avez perdu des kilos, Anna.
Oui, j'ai perdu 10 kilos et mon père a perdu 20 kilos et ma mère aussi a perdu 10 kilos.
Et votre bébé Anna, racontez-nous comment vous vous en occupiez parce que ça devait être très très dur avec un nouveau-né dans ces conditions.
C'était vraiment très dur d'être là-bas avec le bébé. On avait un peu de problèmes avec le lait de le bébé, de pampers et aussi mon petit-fils. Il n'avait pas la possibilité de voir le ciel, le soleil et avoir l'air fraîche.
Et puis l'usine, Anna a été bombardé parfois avec ce qu'on appelle des bombes transperçantes pour essayer de traverser les étages et les sous-sols. Il y avait régulièrement des blessés, des victimes?
Pas régulièrement, mais 2 fois, on avait les gens qui étaient blessés parce que ça dépend de la bombe. Une fois, on avait la bombe, c'était la bombe avec phosphore. C'était très, très grave.
Et votre maman a été blessée d'ailleurs pendant un bombardement?
Oui, elle a cassé son bras.
Comment elle va votre maman aujourd'hui? Comment va votre papa? Est-ce que vous avez pu fuir avec vos parents?
Tout est bien avec ma mère parce que quand elle est venue à Zaporozhye, à l'Ukraine, elle était à l'hôpital.
Oui.
Donc elle a le plâtre maintenant. Et mon père, il va bien aussi.
Anna, vous êtes dans un bus en ce moment avec d'autres réfugiés. Vous partez toujours plus loin de Mariupol. Où est-ce que vous allez? Est-ce que vous voulez aller à l'étranger? Est-ce que vous voulez rester en Ukraine?
Moi, mon plan, c'est aller à l'étranger parce que je ne veux pas répéter cette histoire comme j'avais à Azovstal.
Est-ce que vous voyez revenir un jour à Mariupol? Parce que c'est vrai que la ville est totalement détruite aujourd'hui.
Bien sûr, je veux et je crois que Mariupol sera la ville ukrainienne.
Qui reste encore là-bas pour défendre Mariupol sur cette usine d'Azovstal? Il y a toujours des soldats qui ne veulent pas se rendre, qui veulent toujours combattre?
Il y a toujours les gens civils là-bas, les enfants, les femmes. Il y a toujours les soldats blessés. C'est pour ça que je veux dire à tout le monde, protégez-nous pour protéger nos soldats parce que c'est très, très difficile pour nous d'avoir la victoire dans cette guerre.
Merci Anna, votre message est passé. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce soir. Donc dans ce bus qui vous emmène en sécurité, votre témoignage est précieux. Merci, on vous souhaite beaucoup de courage pour la suite et on est ravis que vous soyez en sécurité avec votre bébé.
Merci beaucoup.
Ce témoignage est à retrouver sur rtl.fr.
Et RTL Soir revient dans un court instant avec vos dessous de l'actu, les dessous de la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron. Ce sera demain à vivre sur RTL, programme, décor, invité. On va tout vous dire et puis laissez-vous tenter dernière. On a bien besoin ce soir de la très jolie voix de Stacey Kent. Tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier.
RTL Soir à vos côtés, bonne fin de journée, 18h30.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Si vous allumez à l'instant la radio, Marion Calais vous rappelle les 3 grands titres de l'actualité du soir.
Harry et Meghan privés d'apparition au balcon de Buckingham pour le coup d'envoi des commémorations du jubilé de la reine le mois prochain. La décision concerne aussi le prince Andrew, mis en cause, lui, dans l'affaire Epstein. Après Toulouse, Paris, nouvelle condamnation de l'État pour les dégradations commises pendant les manifestations des Gilets jaunes, indemnisation cette fois à hauteur de 1 400 000 euros pour la capitale. Et puis avant la finale de la Coupe de France, demain entre Nice et Nantes, le coup d'envoi ce soir de la 36e journée de Ligue 1, Lille-Monaco. C'est à partir de 21h à suivre sur RTL.
Merci Marion. Le temps pour demain, pour ce week-end, Valérie?
Quelques ondées orageuses, un petit peu plus répandues cette fois-ci pour demain au nord de la Seine ainsi que sur tout le flanc est jusqu'à la Corse. Pour les autres régions, un panel de gros passages nuageux et de petites éclaircies. Température stable, 18 à Lille, 20 à Paris, 22 à Vannes, 24 à Marseille, 25 à Bordeaux. Ce sera un petit peu plus joyeux dimanche avec un peu plus de soleil, des températures qui grimpent un peu, mais surtout la semaine prochaine va être magnifique et chaude.
Merci Valérie.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et les dessous, ce soir, de la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron. Ce sera demain et ce sera à vivre sur RTL, édition spéciale dès 11h avec Vincent Parisot et avec l'ensemble du service politique pour ce coup d'envoi officiel en quelque sorte du second mandat du président de la République. Bonsoir Thomas Desprez.
Bonsoir Julien, bonsoir.
Alors,
à tous.
Plantez-nous le décor un peu. Ce sera à l'Élysée, ça va durer combien de temps? Qu'est-ce qui va se passer exactement?
Vous verrez d'abord, Julien, des pieds. Ceux d'Emmanuel Macron qui descendent de son bureau au premier étage de l'Élysée. Il traversera le vestibule d'honneur, direction la salle des fêtes au son de cette musique. Le premier mouvement de concerto pour hautbois de Handel. C'est alors que le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, rappellera qu'Emmanuel Macron a remporté l'élection avec 58,55% des voix. Il se verra ensuite présenter le collier de grand maître de la Légion d'honneur, mais c'est une simple formalité parce qu'il est déjà grand maître depuis 2017. Ensuite, Emmanuel Macron parlera. Il y a 5 ans, ça avait duré 10 minutes tout pile. Là, on nous promet une projection sur les 5 années à venir. Quelle vision pour le pays. Il se rendra ensuite dans le jardin de l'Élysée où les honneurs militaires lui seront rendus. C'est alors que retentiront 21 coups de canon. Le tout devrait durer entre 1h et 1h30.
Combien d'invités et quels invités?
Entre 400 et 500 invités. Le président a souhaité qu'il y ait des personnalités qui ont marqué son premier mandat. Il y aura donc des professionnels de santé, le président du conseil scientifique Jean-François Delfessis, la veuve du premier médecin décédé du Covid en France est également invitée. Ont également été conviés des maires engagés dans le grand débat national ou des sportifs comme le boxeur Brahim Asloum. Côté sportif, les anciens présidents Nicolas Sarkozy, côté politique, pardon, les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, mais la politique c'est aussi du sport, seront là. Les anciens premiers ministres Édouard Philippe et Manuel Valls aussi. Tout le gouvernement sera présent aux côtés de la famille d'Emmanuel Macron.
C'est quoi la différence par rapport à 2017?
Ce sera plus sobre, moins long et uniquement au palais de l'Élysée. Emmanuel Macron ne remontera pas le tapis rouge parce que, je vous l'ai dit, il est déjà à l'Élysée. Après la cérémonie, aucune sortie présidentielle. Il n'y aura pas de remontée des Champs-Élysées direction l'Arc de Triomphe. Pas non plus de visite de la mairie de Paris.
Les dessous de cette cérémonie d'investiture, vous la vivrez donc sur RTL, édition spéciale dès 11h demain matin. Merci beaucoup Thomas.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Il est 18h34.
Laissez-vous tenter dernière.
Et laissez-vous tenter dernière maintenant les bons conseils comme chaque soir de la bande de LVT, des bons conseils pour le week-end notamment. On vous propose un petit peu de douceur pour les prochains jours avec Julia Molcou en musique ce soir. Bonsoir Julia.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Vous voulez nous parler d'une chanteuse américaine qui vend des millions de disques, il s'agit de Stacey Kent.
Stacey Kent, en effet la plus francophone des chanteuses américaines qui chante depuis quelques temps eh bien, les chansons des autres mais à sa façon à elle, c'est-à-dire teintée de jazz et de douceur.
Ah, les voyages aux rivages lointains, aux rêves incertains. Que c'est beau les voyages.
Que c'est beau aussi Stacey Kent, on a l'impression que le temps s'arrête. Elle reprend donc même Barbara.
Ah ouais, ouais, sur cet album Songs from Other Places, dont la version enrichie de 5 nouveaux titres est sortie ce matin, eh bien Stacey Kent ne s'interdit rien et même elle ose tout. Barbara donc, mais aussi Bob Marley avec le titre Three Little Birds ou encore le célébrissime Bésame Mucho.
Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez.
C'est à chaque fois un voyage que propose Stacey Kent. Et là, en duo avec son pianiste Art Irahara, c'est un voyage intime. Faut vous imaginer là, au calme chez vous, allongé sur votre canapé ou assis dans votre jardin, regardant la nature ou fermant les yeux. Peut-être qu'à un moment, vous oserez même chanter doucement avec Stacey Kent et que vous passerez une très lovely day.
Lovely day.
J'adore Stacey Kane. J'avais eu la chance de la voir à enregistrer un grand studio ici à RTL. C'est un grand moment de musique pour moi, chargé de souvenirs. Elle est donc de retour avec cet album Songs from Other Places, augmenté de 5 nouveaux titres. Et puis elle va surtout partir en tournée en France, Julia.
Tournée qui commence le 10 mai à Aix-en-Provence et qui passera par Lyon, Grand-Quevilly, Lieusaint ou encore Paris au Théâtre Marigny. Ça, ce sera le 8 juin prochain.
Stacey Kent, près de chez vous, ne la ratez pas. Merci beaucoup Julia, on vous retrouve demain matin avec Stéphane Carpentier et toute la bande des Matinales Week-end. And the world's all right with me. Just want to look at you. And I know it's gonna be. On devrait garder Stacey Kane pour le reste de l'émission. Mais dans un instant, RTL Soir va se poursuivre avec un peu de Biniou, un peu de Chancorse.
Mais c'est
sympa
aussi.
On va refaire nos régions. C'est très sympa aussi. Les 20 minutes positives près de chez vous avec nos journalistes un petit peu partout en France et avec Marion. Au menu, Dijon, capitale de la gastronomie. Le combat de campagnards picards pour leur tranquillité. Puis un bon aligo, ça c'est pour vous, Marion, pour tenir au corps avant le week-end en Auvergne. À tout de suite.
On refait nos régions, c'est dans un instant sur RTL.